Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres.
Le film Les Évadés, sorti en 1994, donc ça fait un moment maintenant, raconte l'histoire d'un homme victime d'une erreur judiciaire, accusé du meurtre de sa femme, à tort, mais qui parvient à se faire la belle, à échapper de prison après des années d'incarcération. Mais le film dresse aussi le portrait de plusieurs personnages secondaires. Et l'un des plus touchants parmi eux, c'est un vieux détenu nommé Brooks, qui est devenu un peu le papy de tout le monde dans la prison, qui gère la bibliothèque de la prison, qui est un peu une sorte de référence morale. Et un jour, après des décennies d'incarcération, Brooks apprend qu'il va être libéré. Il va sortir de prison. Et là, en tant que spectateur, on se dit, c'est magnifique. Enfin la liberté. Mais en fait, c'est tout le contraire. Brooks est terrorisé. Il ne sait plus qui il est en dehors de la prison. Il ne sait pas par où commencer pour vivre une vie d'homme libre. Il va même essayer de commettre un crime pour essayer de rester en prison. Ça ne va pas marcher. Parfois, il est plus rassurant d'être encadré par des commandements stricts que de devoir exercer sa liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas seulement l'absence de contraintes, c'est aussi la prise de responsabilité. Dans la lettre aux Galates que nous étudions depuis plusieurs semaines, l'apôtre Paul s'adresse à des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont vu en lui celui qui leur a accordé le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Et pourtant, ils ont commencé, comme on l'a vu, à se détourner de cette bonne nouvelle pour dériver vers un autre enseignement, selon lequel, pour pouvoir être trouvé juste aux yeux de Dieu, il faut s'efforcer d'observer scrupuleusement la loi juive, la loi de Moïse. Les Galates, il convient de le préciser, en plus, étaient des personnes d'origine non juive. Et on a vu avec quelle vigueur Paul réagit contre cette atteinte au cœur même de la foi chrétienne, la grâce pleinement suffisante que Jésus-Christ offre par sa mort sacrificielle à la croix, qui seule permet à l'homme d'être pardonné, d'être purifié de ses péchés, d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. On arrive au milieu du chapitre 5 de cette lettre, et après ce plaidoyer théologique assez dense, l'apôtre Paul va passer à des questions plus pratiques. Et il va le faire en partie, sans doute, en réponse à l'objection suivante, ou du moins pour anticiper l'objection suivante. Quelqu'un pourrait lui dire, mais alors Paul, si nous obtenons la faveur de Dieu uniquement par la grâce, c'est-à-dire par la faveur libre et gratuite de Dieu, est-ce qu'il faut considérer que du coup il n'y a plus de limite? On peut faire ce qu'on veut puisqu'on est pardonné de toute façon. Et certains, et on le voit dans d'autres textes de Paul, certains accusaient Paul d'encourager le laxisme en raison de son accent sur la grâce. En fait, ça revient à poser la question suivante qui est très pertinente pour nous encore aujourd'hui. Que faire de la liberté que Jésus offre. Et bien dans ce texte, Paul apporte deux réponses complémentaires. Il nous invite à user de cette liberté que Jésus offre pour choisir l'amour et pour choisir l'obéissance. On va voir ça en deux temps, vous l'aurez deviné. Tout d'abord, choisir l'amour. Alors, on dirait un peu le titre d'un album pop quand je dis ça comme ça, choisir l'amour. Ça pourrait être du Laurie ou Francis Lalanne, je ne sais pas. Mais on comprend vite en lisant notre texte. Non ? N'est pas d'accord. C'est pas mes références habituelles, hein, je promis. On comprend vite en lisant notre texte que l'amour dont parle l'apôtre Paul n'est pas ce bon sentiment indéfinissable qu'on présente aujourd'hui comme l'amour. La fin du verset 13 montre que Paul parle de quelque chose qui implique des efforts, de la volonté, de l'humilité. Et ça va même plus loin quand on voit le vocabulaire que Paul utilise. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Alors, c'est un langage très fort qui déjà peut nous surprendre un peu, mais qui doit surtout nous surprendre parce que dans tout le reste de cette lettre, que fait l'apôtre Paul ? Il appelle ses lecteurs galates à sortir de l'esclavage de la loi religieuse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il vient de dire au début du verset 13. « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. » Comment se fait-il qu'il parle déjà, la phrase suivante, il parle déjà d'esclavage à nouveau ? En fait, on comprend que l'apôtre Paul fait exprès de souligner ce paradoxe. Le chrétien est appelé à la liberté, mais il est invité à utiliser cette liberté pour se mettre au service des autres. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner ce parallèle que Paul établit entre l'amour et le service, comme Jésus déjà d'ailleurs le faisait. C'est important de noter ça, parce qu'aujourd'hui, dans notre culture d'aujourd'hui, on associe plutôt l'amour à un bien-être qu'on ressent à l'égard de quelqu'un d'autre. Et soit dit en passant, quand on définit les choses comme ça, on met l'accent sur soi plutôt que sur l'autre. C'est ce que moi je ressens par rapport à l'autre. Or, quand on définit l'amour ainsi, l'amour du prochain, dont parle la Bible, ça apparaît comme quelque chose de tellement vague ou de tellement impossible, tellement inconcevable, qu'on a du mal à prendre au sérieux et à comprendre l'enseignement biblique à ce sujet. Et quand, par exemple, Jésus nous dit, il prend un exemple extrême, il nous dit « même vos ennemis, vous êtes appelés à les aimer, si vous voulez être mes disciples », eh bien, si on interprète l'amour comme une sorte de bien-être sentimental, on fait vraiment fausse route. Mais si l'amour se traduit avant tout par le fait de choisir de se mettre au service de l'autre, alors on comprend mieux, même si ça reste une parole difficile, mais on comprend mieux de quoi parle Jésus et les auteurs bibliques. Est-ce qu'on sera prêt à chercher activement le bien de quelqu'un qui nous a fait du mal ? C'est ça la question en ce qui concerne l'amour des ennemis. Alors je crois que nous pouvons commencer par nous poser cette question. Est-ce que nous aimons vraiment notre prochain, sans même parler des ennemis, mais déjà notre prochain, de cet amour qui se manifeste par le service ? Et je parle de notre prochain, quand la Bible dit le prochain, c'est tous ceux en gros que nous croisons, qui viennent sur notre chemin, avec qui nous sommes appelés à rentrer en relation. Mais à commencer par ces hommes, ces femmes qui sont autour de nous ce soir, par exemple. Est-ce qu'ils comptent vraiment ? Est-ce que ceux qui vous entourent ce soir comptent vraiment pour vous ? Au-delà des bons sentiments et des bonnes paroles, est-ce que nous sommes prêts à agir concrètement pour leur bien ? Or, parce que Dieu fait très bien les choses, je crois que lorsqu'on s'engage activement pour le bien des autres, on découvre souvent que les sentiments nouveaux viennent à l'égard de notre prochain. Et on découvre même un bien-être qu'on aurait jamais soupçonné. Mais revenons à notre texte. L'apôtre Paul fait face à des Galates qui veulent se soumettre à nouveau donc à la loi de Moïse. Et dans ces circonstances-là, on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent, à ce qu'ils leur disent d'oublier toute référence à la loi de Moïse. À ce qu'ils leur disent, non mais la loi de Moïse, oubliez ça une bonne fois pour toutes. Mais au contraire, il va souligner que l'amour du prochain, c'est précisément ce que la loi de Moïse demandait. Et effectivement, on lit en Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Et l'apôtre Paul estime même que toute la loi est accomplie, verset 14, toute la loi est accomplie dans ce commandement d'aimer le prochain. Et en disant cela, il se situe dans la continuité de Jésus qui résumait l'enseignement de la loi par le commandement d'aimer Dieu et le commandement d'aimer son prochain. Donc l'apôtre Paul, comme Jésus, ne rejette pas la loi en tant que telle. Elle a joué un rôle important dans l'histoire de la révélation de Dieu. Elle a joué un rôle pédagogique, c'est un terme que la lettre aux Galates utilise, pour préparer la venue du Messie. Mais l'Ancien Testament annonçait depuis des siècles un jour où Dieu se ferait connaître directement et personnellement, où il transformerait le cœur de ses enfants pour leur donner la volonté, le désir de lui obéir. Et Paul veut que les Galates comprennent que cette nouvelle ère, elle a commencé. Jésus offre un plein pardon et il offre une transformation du cœur, une nouvelle liberté dans notre relation avec Dieu. Je me souviens dans la faculté où j'ai fait mes études de théologie, d'un professeur qui parlait d'une greffe de cœur, une greffe spirituelle de cœur que Dieu nous offre. Et ça implique une nouvelle liberté dans notre relation avec Dieu. Mais cette liberté, ce n'est pas une liberté de faire n'importe quoi. C'est une liberté qui nous libère justement pour pouvoir faire le bien. Or, l'expérience montre que la liberté utilisée pour faire le bien, c'est une motivation beaucoup plus puissante que la contrainte. Ces derniers temps, vous avez sans doute vu comme moi plusieurs témoignages de familles qui ont été prêtes à accueillir des réfugiés, parfois pour quelques jours, parfois pour quelques mois ou plus, dans leur foyer. Donc un bel exemple d'hospitalité, générosité. Maintenant, imaginez qu'au lieu de ces propositions volontaires, ce soit l'État qui réquisitionne des chambres pour les réfugiés chez l'habitant, en tirant au sort, par exemple, sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Je pense que même les plus généreux auraient très mal vécu cette contrainte. Et on imagine que ça aurait affecté leur attitude envers ces réfugiés qui n'auraient pas choisi d'inviter, mais qui leur auraient été imposés. L'exemple, évidemment, est imparfait, mais il montre que la liberté choisie est beaucoup plus puissante que ce qu'on fait sous la contrainte. Mais je reviens à nos Galates. Jusque-là, dans cette lettre, ça a été assez théologique, assez doctrinal. Il a été question de faux enseignements, il a été question du danger de remettre en question le cœur de la bonne nouvelle de Jésus. Et on peut se demander pourquoi est-ce que tout d'un coup, l'apôtre Paul parle d'amour et de service. Alors on a des indices dans le texte. Si on regarde le verset 15, il écrit ceci. « Si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Encore un langage fort. Les termes que Paul utilise dans l'original grec renvoient au contexte animalier, des bêtes qui mordent, qui se dévorent. Et à la fin du texte, au verset 26, on voit que le thème des conflits, il apparaît à nouveau. « Cessons de nous provoquer les uns les autres. » De nous porter envie les uns aux autres, les uns les autres. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que d'une part, les Galates avaient un problème théologique, donc ils étaient en proie à des faux enseignements sur la nature de l'enseignement de Jésus, sur l'Évangile, et que par ailleurs, sans rapport, en plus, ils ne s'entendaient pas pour couronner le tout? Non, en réalité, tout laisse penser que les deux choses étaient directement liées. Les faux enseignants apporter un enseignement qui divisait l'Église. Parce qu'il mettait l'accent sur les efforts humains et le besoin de gagner la faveur de Dieu par les œuvres. Et inévitablement, quand on commence à réfléchir comme ça, on commence à comparer. Il y a ceux qui sont à la hauteur, il y a ceux qui ne le sont pas. Il y a les superstars spirituels, il y a les bras cassés. Et Paul veut donc montrer que ceux qui, en apparence, prêchaient l'obéissance scrupuleuse à la loi, eh bien, en fait, ils récoltaient précisément le contraire de ce qu'ils affirmaient. Plus ils cherchaient à imposer aux chrétiens l'obéissance à la loi de Moïse, plus ils allaient à l'encontre du cœur même de cette loi, qui est l'amour du prochain. Or, Dieu nous invite à puiser dans sa grâce pleinement suffisante pour choisir de nous aimer les uns les autres, en nous mettant au service les uns des autres. Et sans doute que nous avons besoin de laisser Dieu changer notre cœur, ou continuer à changer notre cœur, pour nous donner le désir de nous aimer les uns les autres par le service mutuel. Ça peut commencer dès aujourd'hui par la prière. Seigneur, aide-moi à rechercher activement le bien de tous ceux que tu mets sur mon chemin. Aide-moi à ne pas me défiler devant le besoin des autres. Aide-moi à m'aimer comme tu m'invites à m'aimer. Peut-être que ça nous invite aussi à la réflexion sur Quelles sont des personnes actuellement dans notre entourage qui auraient besoin que nous les aimions de cet amour actif, de cet amour qui se met à leur service. Et j'en viens à la deuxième invitation que Paul adresse dans ce texte, choisir l'obéissance. À partir du verset 16, il va élargir son propos après avoir parlé de l'amour. Il écrit « Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. » Rappelons que Jésus, après sa résurrection, a promis que l'Esprit de Dieu lui-même viendrait prendre possession de la vie de tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Et l'Esprit, ce n'est pas une force impersonnelle, mais c'est bien Dieu lui-même qui vient dans nos vies et qui commence un travail long et patient de transformation intérieure. Cette greffe de cœur dont on parlait, c'est l'œuvre de toute une vie. Elle dure longtemps. Le travail est long et patient parce que notre tendance naturelle, c'est de nous replier sur nous-mêmes, sur nos préceptes, sur nos préférences, sur notre réaction du moment. Autrement dit, tout ce que Paul appelle la chair, un mot qui revient, verset 13, verset 16, verset 17, verset 19, verset 24. Alors là, il faut préciser les choses parce qu'il y a souvent un malentendu. Contrairement à ce qu'on pense très souvent, le mot chair dans le Nouveau Testament, il ne désigne pas spécifiquement les fautes sexuelles et encore moins la sexualité en tant que telle. La chair, dans ce contexte, c'est bien plus largement l'homme qui agit sans se référer à Dieu. Et l'idée, donc, c'est l'homme qui n'est que chair. Il s'est détourné de l'esprit de Dieu, donc il n'est que chair. C'est l'homme tel qu'il est lui-même. Et on voit dans les versets 16 à 24 que Paul va opposer l'homme qui se laisse conduire par Dieu, par son esprit, et l'homme qui agit selon ses propres préceptes, selon la chair. Et on voit qu'il n'y a pas de troisième voie. Soit on est conduit par l'esprit, soit on se replie sur la chair. Et pour l'apôtre Paul, la clé de la vie spirituelle, elle est là. Elle n'est pas dans l'obéissance à la loi de Moïse. Est-ce qu'on est conduit par le Saint-Esprit ? Est-ce qu'on est conduit par Dieu lui-même ? Ou est-ce qu'on se replie sur sa chair, sur ses propres ressources, sur soi-même ? Dieu nous invite à nous laisser transformer par lui, par son esprit. Il aurait pu, c'est vrai, hein, après tout, oui. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il aurait pu nous transformer entièrement en un clin d'œil et faire de nous des hommes et des femmes immédiatement parfaitement obéissants. Mais pour des raisons qui lui appartiennent, il a décidé d'agir en douceur. Alors, en douceur, parfois quand même par des choses moins douces, mais dans la durée, par une transformation progressive, patiente, en transformant notre volonté pour que nous puissions désirer de plus en plus faire ce qui lui plaît. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours bien. Quand on réfléchit un peu au mystère du rapport entre notre initiative et la volonté de Dieu, notre liberté, la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu agit dans notre volonté. Dieu nous permet de choisir librement. Sa souveraineté est telle qu'il peut agir directement dans notre volonté pour que nous puissions nous-mêmes faire des choix qui lui plaisent. Il y a quelques jours, ma fille de 2 ans et demi a pour la première fois dit « s'il te plaît », spontanément, et pas parce qu'on lui disait « qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ?» Avec Talia, ma femme, on a échangé un regard d'émerveillement absolu que sans doute seuls des parents peuvent comprendre. Pourtant, ça fait plusieurs mois qu'elle prononce le mot. Mais jusque-là, c'était toujours parce qu'on lui arrachait les vers du nez, parce qu'on c'était toujours sous la contrainte. Et pour la première fois, elle a elle-même eu la volonté de l'utiliser. Se laisser conduire par l'esprit, c'est laisser Dieu agir dans notre volonté, donc pour apprendre à désirer librement ce qui est bon à ses yeux. Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul écrit ailleurs dans sa lettre aux Romains. La lettre aux Romains, à certains égards, c'est une sorte de version plus développée de la lettre aux Galates, avec des sections en plus, avec une réflexion un peu plus affinée, un peu plus détaillée. Et donc au début du chapitre 12 de la lettre aux Romains, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » Donc Paul veut que les Galates cessent de se concentrer sur eux-mêmes et se laissent transformer par Dieu pour pouvoir lui obéir. Et ce que Paul souligne dans les versets 19 à 23, qui sont bien connus, le fameux passage sur le fruit de l'esprit qu'on cite souvent, c'est que ces deux démarches, être conduit par l'esprit ou bien vivre selon la chair, eh bien, ces deux démarches, elles ont des conséquences. Vivre selon la chair, ça se traduit par une vie qui s'oppose à Dieu. Et Paul va donner toute une liste d'exemples de ces comportements au verset 19 à 21. Alors quand on lit ces exemples, certains peut-être, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, certains nous paraissent peut-être loin de notre réalité ou de notre vécu. Sorcellerie, beuverie, orgie. Donc on pourrait avoir tendance à dire, oula, ça c'est, il parle vraiment des gens qui font des choses horribles, etc. Mais il y a d'autres choses qui sont bien plus délicates. Hostilité, dispute, passion jalouse, ambition personnelle. Là, ça nous touche peut-être quand même plus. Et ce qu'il y a de commun à tous ces comportements, c'est qu'ils viennent d'une vie vécue comme bon nous semble, en fonction de notre intérêt immédiat, ou lorsque nous laissons libre cours à nos sentiments les plus impurs. Et cette impureté, elle peut être parfois très visible et évidente et vulgaire, sorcellerie, beuverie, orgie. Parfois, elle est beaucoup plus subtile, insérée ça et là dans notre façon de penser aux autres, de parler aux autres, de parler des autres. Hostilité, dispute, ambition. Et donc, je crois que nous devons régulièrement nous poser cette question. Est-ce que cette action, cette parole, est-ce qu'elle reflète l'action de Dieu dans ma vie? Et souvent, en tout cas pour ma part, je dois souvent faire le constat que la réponse est non, que je parle, je pense ou j'agis comme si Dieu n'était pas là ou comme s'il était hors sujet. C'est ça la vie selon la chair. Et Paul met en garde ses lecteurs et il faut entendre cette mise en garde, même si elle est dure à entendre. Quand cette façon de vivre est notre fonctionnement normal, quand on vit une vie en fonction de ses propres préceptes et désirs, sans être guidé par l'Esprit de Dieu, et quand c'est notre façon normale de vivre, eh bien, ça laisse entendre que nous n'appartenons pas à Dieu. Ceux qui pratiquent de telles choses, verset 21, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais à cette manière de vivre, Paul oppose le célèbre fruit de l'Esprit. Alors, on note qu'il parle du fruit de l'Esprit au singulier. Donc son propos n'est pas tant de dresser une liste de choses qui seraient toutes parfaitement distinctes les unes des autres, mais il veut nous donner en quelque sorte le portrait robot d'une vie vécue sous la conduite du Saint-Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Qu'est-ce que ces qualités ont en commun? Elles se distinguent par un élan vers l'autre, que ce soit l'autre avec un petit a, l'autre qui est mon prochain, ou l'autre avec un grand A, Dieu lui-même. Et on peut aussi discerner dans ces qualités la paix de celui qui se sait aimé et qui se sait accepté par le Dieu de l'univers et qui donc n'a plus besoin d'essayer de gagner la faveur de qui que ce soit. C'est libérateur quand on comprend qu'on n'a plus besoin de gagner la faveur de qui que ce soit. Et on rejoint là le cœur de la loi de Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, Deutéronome 6, 5. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19, 18. Si les Galates se laissent conduire et transformer par Dieu lui-même, ils pourront constater qu'ils vivent enfin ce que la loi elle-même les appelait à vivre, l'amour de Dieu et du prochain. Alors maintenant, certains pourraient se dire que c'est bien joli de dire « marcher par l'esprit », mais concrètement, on fait comment? Et puis, une autre chose que certains pourraient objecter, que j'ai entendue parfois, c'est « est-ce que finalement, ça ne va pas revenir au même? On va mesurer notre vie spirituelle en fonction de notre capacité à vivre par l'esprit. Est-ce que tu es guidé par l'esprit? Parce que lui, il est vraiment guidé par l'esprit. Ou est-ce que tu es trop dans la chair? Est-ce que finalement, on va revenir à une nouvelle loi, mesurer notre vie spirituelle en fonction de notre capacité à vivre par l'Esprit. Et c'est là que le verset 24 est si précieux et si décisif. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et là, il faut bien faire attention, parce que Paul ne dit pas « vous devez crucifier la chair ». Il dit « ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair. » Et souvent, on comprend mal ce verset en estimant que avoir crucifié la chair, ça veut dire qu'on est plus vulnérable face aux désirs de la chair tel que Paul les conçoit. Alors déjà, si c'était vrai, pourquoi est-ce que Paul perdrait son temps à écrire ce texte si la chair ne pose plus aucun problème aux chrétiens de Galatie, c'est pas la peine qu'il leur en parle tant. Mais surtout, c'est pas pour rien que Paul utilise le verbe crucifier. La crucifixion dont il est question ici, ce n'est pas une sorte de démarche spirituelle mystique que nous devons entreprendre. Est-ce que tu as crucifié ta chair ? La crucifixion dont Paul parle ici, c'est celle qui est au cœur de notre foi. C'est la mise à mort de Jésus sur la croix pour payer le prix de nos fautes. Nous avons crucifié la chair et ses désirs, si nous l'avons fait, non pas parce que nous avons trouvé la force de le faire, mais parce que Jésus, en qui nous avons placé notre confiance, il a pris sur lui, à la croix, notre condamnation. Et si jamais vous êtes sceptique, je vais essayer de vous convaincre encore une fois par la lettre aux Romains. Et je vais lire donc un texte, Romains 6, verset 6 à 7, je lis dans la traduction du Semeur. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Celui qui est mort avec Christ, par la foi, celui qui s'est associé à la mort de Christ, n'a plus à répondre du péché. Donc Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous placer dans une situation où nous aurions à nouveau les yeux rivés sur notre comportement, en essayant de toutes nos forces d'être trouvés obéissants. Mais Jésus est mort sur la croix pour que la question de notre culpabilité aux yeux de Dieu ne se pose même plus. Nous avons été libérés définitivement de toute pression d'être à la hauteur des exigences de Dieu et des hommes. Ce n'est pas pour rien que l'Évangile choquait, que ce message de Paul et des autres apôtres choquait. Jésus a été à la hauteur pour nous. Et il nous permet de vivre librement pour Dieu et au service de notre prochain. Il nous invite à puiser dans cette assurance et dans cette liberté, chaque jour, dans la puissance du Saint-Esprit, les ressources pour vivre librement une vie qui plaît à Dieu. Amen.